Et au menu de notre club aujourd'hui, un dictionnaire historique de la langue française, des questions de science avec des si et une exposition contagieuse. Je vous présente mes invités dans un instant. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science aujourd'hui, des singes capucins capables de tailler des pierres.
Oui Mathieu, et ces éclats de pierres sont bien embêtants pour les archéologues et les anthropologues parce qu'ils ressemblent énormément aux premiers outils façonnés par les hommes. On vous explique dans un instant.
Stéphanie Texier réalise ce club des têtes au carré qui a été préparé aujourd'hui par Chantal de Montagny avec Lucie Sarfati.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Un dictionnaire historique donc de la langue française, des questions de science et une exposition virale dans notre club. Je salue mes invités, Alison Boiffard, Alain Rey et René Cuillerier. Bonjour à tous les trois.
Bienvenue.
Alain Rey, hier est sortie la nouvelle édition augmentée du dictionnaire historique de la langue française. 1000 nouveaux mots. Qu'est-ce qui permet à une langue comme la nôtre de garder de la vitalité au fond?
C'est ce qui lui permet, c'est la nécessité, parce que une langue est faite pour exprimer des besoins d'expression et de communication, et quand les besoins se déploient, la langue doit suivre, qu'elle le veuille ou pas. Donc, elle est obligée de recourir soit à une fabrication interne, c'est la meilleure des solutions, mais c'est très souvent par des emprunts un peu passifs, un peu plats, un peu paresseux, que la communauté réagit en prenant les mots qui sont malheureusement aujourd'hui d'une origine unique, et c'est pas du tout pour critiquer cette origine-là, mais pour déplorer le fait qu'elle est un peu trop présente par rapport aux autres. Voilà. Et c'est évidemment l'anglicisme d'Amérique du Nord. Je finis par ne plus dire anglicisme, ni même américanisme.
Californisme.
Parce que tout vient de Californie.
Absolument. On verra ça avec vous tout à l'heure. Alison Boiffard, du microbe au fou rire. Tout s'attrape, invisiblement. C'est une exposition à voir en ce moment au Palais de la Découverte à Paris. La contagion, donc c'est ce phénomène qui vous intéresse et qui peut s'explorer dans beaucoup de domaines. Et la contagion qui n'est pas toujours négative. C'est ce qu'on découvre aussi.
Oui, alors là, l'idée, c'est vraiment de montrer la contagion au sens très large du terme. Donc, en effet, les maladies, mais on va dans la contagion positive même au niveau biologique, avec toutes les bactéries indispensables qui nous colonisent, qui sont indispensables à notre vie, et puis la contagion émotionnelle, la contagion du rire, la contagion du bâillement, et là aussi on a de nombreux exemples de contagion bénéfique.
Et bien on espère pour vous que cette exposition va devenir virale et que tout le monde aura envie d'aller la voir. René Cuillerier, vous publiez chez Belin, et si la Terre était plate, 36 questions de science, pas si absurde que ça. Ce qui est intéressant justement avec la science, c'est qu'on peut tout s'autoriser, c'est ce que vous faites.
Exactement,
d'ailleurs dans vos articles.
C'est effectivement 36 questions qui sont assez absurdes pour certaines d'entre elles.
Mais si la Terre était plate, par exemple.
Par exemple, on sait bien qu'elle ne l'est pas, mais ce qui est marrant, c'est que la science permet effectivement d'essayer de répondre à l'idée de qu'est-ce qui se passerait si elle était plate.
Voilà, si on rencontrait l'âme sœur, si on construisait Goldorak, toutes ces choses très
passionnantes. Goldorak, ça marche pas très bien, je suis désolé de le dire.
On verra ça avec vous tout à l'heure. Et on se retrouve dans un instant avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Au Brésil, et de nos jours, des singes capucins frappent des pierres les unes contre les autres et ils obtiennent des éclats ressemblant fortement aux outils de pierre des premiers hommes. C'est une découverte troublante que nous commentons avec vous, Hélène Roche. Bonjour.
Bonjour.
Publication qui est sortie dans Nature cette semaine. Vous êtes préhistorienne, co-découvreuse des plus vieux outils de pierre connus. C'est au Kenya. Quel âge pour ces premiers outils?
3,3 millions d'années.
Ouais. Comment est-ce que vous avez réagi en voyant ces éclats obtenus par ces singes capucins?
Je n'ai pas été trop surprise parce que je pense que c'est tout à fait possible que, à partir du moment où on frappe des pierres l'une contre l'autre, d'une certaine façon, bien évidemment, on peut obtenir des éclats.
Ouais, mais là, c'est la première fois qu'on l'observait?
Oui, c'est la première fois qu'on observait cette pratique-là, je veux dire, ce comportement-là des capucins, c'est la première fois.
Est-ce qu'on sait pourquoi ces petits singes tapent ces pierres les unes contre les autres?
Non, le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement pourquoi. Alors, ce qu'on observe, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir, il y a une vidéo qui accompagne la publication dans Nature de cet article.
On l'a mis en ligne, d'ailleurs.
Elle est sur Facebook depuis ce matin.
Et ce qu'on observe, c'est d'ailleurs très amusant de le voir faire, c'est qu'entre chaque coup, après chaque coup donné de pierre contre pierre, le petit capucin qui fait ça lèche avidement, vraiment avec avidité, la poussière de silice, c'est de la silice pure, parce que c'est du quartz, donc c'est quasiment de la silice pure.
Et nutritivement, c'est intéressant, la silice?
Non, je ne pense pas. Non, c'est abiotique, il n'y a rien dans la silice. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de nutriments. Alors, la silice peut peut-être avoir un avantage si pour la formation, au moment de la formation des os, mais enfin, comme ce sont là des capucins déjà grands et adulte ou jeune adulte, je ne pense pas que ça puisse avoir.
Est-ce que
un
ça
rôle.
Peut avoir bon goût, demande Stéphanie Texier,
ben, oui,
en régie.
Alors je ne sais pas, honnêtement, je n'ai jamais goûté de. Ça m'arrive quelquefois de lécher des pierres, mais j'avoue que ça peut m'arriver.
C'est vrai, ça vous arrive.
Mais oui, pour des tas de raisons. Enfin, on peut avoir, si, pour essayer de différencier si c'est un tuf ou si c'est. Voilà,
c'est ça.
Voilà, on peut arriver de mettre la langue, je veux dire, dessus. Mais là, non, moi, mais il paraît que ça. Oui, ça a une odeur et sans doute un goût. Alors peut-être, est-ce que c'est une raison? Est-ce que c'est ludique? Est-ce que c'est par goût? Enfin, parce que c'est un bon goût? Est-ce qu'il y a un avantage quand même dans leur biologie, enfin, dans leur, pour se purger de quelque
mais
chose?
C'est ça.
C'est possible.
Alors, parce qu'il y a des cas d'automédication chez les grands singes, par exemple.
Tout
hein,
à fait.
On en parlait avec Sabrina Krieff ici, de chimpanzés qui avalent certaines feuilles très corrosives pour nettoyer leurs parasites, par exemple.
Voilà, hein. Voilà. Alors, bon, là, est-ce que ça. Mais ça, c'est un petit peu ce que je regrette dans cet article, c'est que ça n'a pas du tout été exploré, cette possibilité-là. Et d'ailleurs, il y a très peu de primatologues qui ont été interrogés sur la question, ce que je trouve un petit peu dommage.
Il n'empêche que le fait qu'on voit des singes aujourd'hui pratiquer cette casse, c'est un problème quand on cherche des vieilles traces d'humains sur la planète. Parce que les cailloux qu'on trouve ressemblent vraiment, on voit la différence dans la vidéo, ressemblent énormément aux traces que vous avez trouvées.
Oui,
par
bien sûr. Bah oui, si vous voulez. Mais comment dire, le fait de faire un éclat, ça répond à une loi physique. C'est ce qu'on appelle, parce que ça dépend de la fracture, c'est relié à la fracture dite conchoïdale, et c'est une loi physique qui s'appelle la rupture fragile. Enfin, là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et en fait, tout est question d'angulation, d'angle, de force de la frappe, d'équilibre de la force de frappe, si je puis dire, entre ce qui est frappé et la pierre qui frappe, etc. Et donc, on n'a pas besoin d'un cerveau ou même la nature peut faire ça. Si vous allez sur les plages de galets du nord de la France, vous allez trouver des dizaines de galets taillés comme ça, et c'est par le ressac de la mer. Enfin voilà, donc c'est on n'a pas besoin d'un cerveau pour ça. Donc
à l'arrêt.
Ah bah de toute façon, ils ont un cerveau. Hein.
Ah non, eux, les capucins, oh non, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est...
Qui est très proche du nôtre. Non, je veux dire que la grosse question pour moi, c'est de savoir ce qu'ils en font.
Ah ben voilà.
Voilà, bah, ils n'en font rien.
C'est alors, ça qui est
ça ne les intéresse
s'ils n'en font rien, ça nous
pas.
Rassure.
Ah, voilà.
L'homme est vraiment homo faber, et il n'y a pas de simiens faber.
Voilà.
C'est pas rassurant.
Selon vous, le premier qui s'est intéressé à ces tranchants, c'est un singe ou un préhumain? Alors, ça peut être un singe. Parce que là, on est sur des petits singes, ce ne sont même pas des grands singes. Donc, on peut imaginer que les grands singes se sont intéressés aux tranchants.
Pour s'intéresser aux tranchants, il faut avoir besoin d'un tranchant. Et encore une fois, je ne pense pas que les singes aient besoin de ça. Quand ils ont besoin de quelque chose, ils le fabriquent. Je veux dire, quand un chimpanzé veut aller à la pêche aux termites, il va prendre une branche, l'effeuiller et s'en servir pour aller pêcher les termites dans le trou de termites.
Ouais.
S'il veut aller retirer du miel dans un trou, etc., il va prendre un bâton, éventuellement aussi le préparer un peu. Mais voilà. Mais les grands singes, d'une façon générale, que je sache, n'ont pas besoin d'outils coupants parce qu'ils ont des outils naturels qui coupent. Ils ont des dents, ils ont des ongles, enfin des griffes. Et beaucoup de force, et voilà. Et donc, ils n'ont pas besoin. Donc, je pense que, à partir du moment où des hominidés, enfin, des ancêtres de l'homme, ont eu besoin d'un objet coupant, ils ont commencé à s'intéresser à la fonction coupante de la pierre quand elle est fracturée d'une certaine façon.
Donc, on pourrait imaginer que ce petit capucin ne casse la pierre que pour aller y lécher justement cette poudre.
Oui, franchement, je le pense vraiment. Maintenant, il faut. C'est le début d'une recherche là.
C'est ça. C'est pas évoqué dans la publication de Nature. La question n'est pas posée en ces termes.
Non, pas vraiment.
Ouais,
non,
alors
non,
qu'elle non. paraît
mais oui,
assez
mais bien
essentielle.
Sûr, tout à fait.
Hein.
Oui, je trouve que c'est ça qui manque un petit peu, c'est le pourquoi. De ce comportement en fait, qui est amusant en soi. J'encourage
le
monde à aller regarder la vidéo,
aller la voir sur le site de la Tête au Carré.
Ils sont vraiment très drôles, ces petits capucins.
Si les capucins sont pas capables d'utiliser ça comme outil, peut-être qu'ils le font pour des raisons purement esthétiques, dans lequel cas ils auraient inventé le kitsch.
Ce qu'ils font, ce qu'on a observé, c'est qu'un éclat tombe, ils le ramassent et ils le retapent dessus. Ils essaient de le casser à nouveau. Voilà.
Ça les amuse peut-être. Ça les...
Moi, je sais pas. C'est peut-être ludique. C'est peut-être.
En tout cas, on peut dire que les capucins sont accro à la poudre, quoi.
Oui, exactement. Non,
c'est ça. Mais pas de cas de sniffage de poudre.
Ils lèchent et ils sniffent. Voilà.
Alors voilà, ils sont totalement addicts.
C'est ça en fait. Je n'avais pas pensé à ça. C'est le début de l'addiction.
Axel va vous aider à réécrire la publication. Vous allez l'envoyer à les lecteurs et on en reparlera très prochainement dans La Tête au Carré. Juste un mot, parce que Axel vous posait la question, mais oui. Ça remet rien en cause justement sur les origines des premiers outils, non. Parce qu'on peut imaginer quand même que ces pierres qu'on interprète justement ici des premiers hommes, elles pourraient être attribuées à des singes tout simplement, non? Ça met pas le bazar quand même, ça, dans vos disciplines?
Moi, je trouve
pas.
C'est un petit peu l'article est fait un peu pour ça. Il est provocateur pour ça, bien sûr. Mais moi, j'avoue que ça me laisse très tranquille quand même. Je n'ai pas de. Vous savez, ça fait quand même une centaine d'années qu'on cherche des pierres taillées en Afrique de l'Est.
Oui, mais vous dites ça parce que vous avez découvert les outils les plus anciens. C'est pour ça que vous n'avez pas du tout envie qu'on attribue ça à des singes, à des roches.
Mais moi, ça m'est égal. Vous savez, je fais partie de ceux qui pensent que ce n'était pas forcément un individu du genre homo qui a fait les premiers outils. D'ailleurs, à 3,3 millions, on n'a pas encore le genre homo, donc pourquoi pas, hein. Ouais. Donc non, moi, ça ne me dérange pas que ça soit un singe ou que ça soit un pré-humain ou que ça soit un ancêtre de l'homme. Peu importe. Ouais. Mais bon, en tout cas, c'est quelque chose qui part des... commence à un moment et qui ne s'arrête plus ensuite. Ouais.
Bon, c'est toujours intéressant quand on vient gratouiller la science.
Mais une autre question, c'est que les pierres que vous avez trouvées, est-ce que c'est vraiment des outils? Dans ce cas-là, ça peut être des reliquats de casse, mais qui ne sont pas à proprement parler des outils.
Oui, oui, bien sûr, on peut dire ça comme ça, si vous voulez. Oui.
Mais... Donc, une question en plus.
Ben voilà, une question en plus.
Et une publication supplémentaire.
Allez, voilà, on y va. Allez.
Merci beaucoup en tout cas, Hélène Roche, pour vos explications. À la une de la science aujourd'hui et passez un bon week-end. Axel, on se retrouve lundi.
À lundi.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, l'histoire de la tique qui rend végétarien. Écoutez bien, des cas de plus en plus nombreux d'allergies à la viande sont rapportés aux États-Unis. Ils surviennent après la morsure d'une espèce particulière de tique. C'est une molécule contenue dans la salive de cette tique, l'alpha-galactose, qui pourrait être à l'origine de la maladie. Après une morsure identifiée comme une agression par le système immunitaire, eh bien chaque repas à base de viande contenant également de l'alpha-galactose sera perçu comme une nouvelle agression par le corps qui déclenchera une réaction allergique importante. En 2015, plus de 5000 cas ont été documentés aux États-Unis et plus de 1400 en Australie. Comprendre les protéines en écoutant leur mélodie. Une équipe de chercheurs finlandais a eu la drôle d'idée de convertir les données structurelles des protéines qu'ils étudient, non pas en images 3D, mais en mélodies harmonieuses. Selon eux, et avec un peu d'entraînement, l'écoute des sons produits par leurs algorithmes est bien plus instructive que l'observation d'images 3D, souvent très complexes et quasiment illisibles. Les oreilles pourraient donc détecter plus facilement les fines variations de forme et de structure présentes d'une protéine à l'autre, là où, sur une image, aucune différence n'est perceptible. Et puis par hasard, des ingénieurs transforment du CO2 directement en éthanol en cherchant de nouveaux catalyseurs chimiques à base de nanostructures de graphène. Et bien, ces scientifiques américains ont eu la surprise de produire un précurseur de nombreux de nos carburants, donc l'éthanol. Si cette réaction qui se produit à température ambiante est confirmée et maîtrisée, eh bien l'énergie électrique pourrait être stockée sous forme de carburant tout en consommant du CO2 atmosphérique. Une découverte qui est donc à suivre. Et notre club des Têtes au Carré dans un instant.
Thief, and what to find I keep. I was supposed to set an example, but I am a vandal. Yeah, the paper's nice, but it's the rush I like. You don't care about the money when you're an adrenaline junkie. What will change me after they let me loose and realize, or maybe they are small crimes, but some things I just wouldn't do. White lies, but some tales I just can't keep true. And if I gave it up, would I still be a thug? Don't choose to play the bad guy. He's in your bloodline. And I left my heart in a scrap metal yard. You don't get to be a human when you're a hooligan. Words will chain me after they let me loose. Realize that maybe there are small crimes, but some things I just wouldn't do. White lies, but some tales I just my petty fee. What to find I keep. I was supposed to set an example, but I am a vandal.
Elle s'appelle Niloufer Yania avec Small Crimes et Thierry Dupin pour la programmation de La Tête au Carré.
La Tête au Carré. Le club. Sur France Inter.
Et oui, nous sommes vendredi, nous sommes donc dans le club avec aujourd'hui un dictionnaire historique de la langue française, des questions de science avec des si et une exposition virale avec mes invités, donc le lexicologue Alain Rey, la commissaire d'exposition Alison Boiffard et le journaliste scientifique René Cuillerier. Alain Rey, hier est sorti la nouvelle édition de votre dictionnaire historique de la langue française, chez Robert. Comment d'abord est-ce qu'on peut qualifier votre travail, Alain Rey? Ça consiste en quoi votre tâche au
Ça
fond,
consiste à suivre les mots, essayer de repérer leurs origines. C'est un peu un travail de préhistorien aussi.
Oui,
parce
c'est ça,
que
ouais.
Quand le mot rentre dans la langue française, enfin, ça veut dire qu'on a une preuve de son arrivée par un texte écrit, ce qui veut dire qu'il existait avant certainement, mais qu'il est signé comme existant. Donc c'est très très pertinent à partir du moment où il y a une littérature, où il y a des textes écrits, c'est-à-dire pour le français environ le Xe siècle. Quoi.
Oui, on peut dire que la langue française commence vraiment au Xe siècle.
Commence
là, le français ancien.
Le premier texte considéré comme français, mais qui ne l'est pas à mon avis, ce sont les serments de Strasbourg, dans lequel les héritiers de Charlemagne, qui sont en bisbille sur la répartition de l'Empire, s'expriment les uns en germanique, et ça la langue est attestée, et les autres dans une langue qui n'est plus le latin, et qui est intermédiaire, on va dire, entre le latin et le français, langue très artificielle, langue de communication politique, en fait, et qui est destinée simplement à montrer qu'il y a une sincérité et un rapport avec le peuple, et non plus le latin, qui est une langue toit qui fonctionne entre les deux communautés. Donc là, on a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait du français, et qui va le devenir vers le Xe siècle, avec des traductions de textes latins, comme la Cantilène de Sainte-Eulalie, et de quelques autres, et qui sont nos premières attestations de mots français. Et à partir de ce moment-là, ça va se multiplier très très vite. Déjà, au XIe siècle, un texte comme la chanson de Roland est extrêmement riche, et c'est déjà plus du tout du latin.
Ouais.
Et c'est vraiment du français, mais de l'ancien français, donc sujet à traduction pour en profiter aujourd'hui, parce que malheureusement, nous avons 6 siècles de production littéraire de premier ordre, en France et en Angleterre, parce que ça s'est passé aussi comme ça, qui ne sont pas accessibles directement et qui mériteraient traduction. Après, c'est le XVIe siècle, on commence à pouvoir lire le texte directement, que ce soit Montaigne ou Rabelais, avec beaucoup de contresens et beaucoup de difficultés. Et c'est un petit peu ce territoire immense que j'ai essayé de parcourir, mot par mot, point par point, expression par expression.
Effectivement, c'est un territoire immense, et c'est ce qui est très impressionnant d'ailleurs, quand on regarde 60 000 mots, là, justement.
60 000 mots, il pourrait y en avoir 100 000, 150 000, c'est
combien de personnes travaillent avec vous pour explorer ces 60 000
écoutez,
mots?
Écoutez, la première édition du livre a été faite par une dizaine de personnes, donc quelques spécialistes de langues anciennes pour la partie étymologique, notamment le professeur Caco, qui est traducteur de la Bible et décrit autour de la religion vers les premiers siècles, et qui est spécialiste de l'arabe, de l'hébreu, etc. Une helléniste remarquable, malheureusement décédée aujourd'hui, et puis 3 rédacteurs principaux, que je pourrais nommer, parce que vraiment, ils ont fait le texte de la première édition, mais pour les éditions suivantes, et surtout celle-là, qui est très modifiée, j'ai été obligé de m'y mettre tout seul, pour des raisons bassement commerciales, et aussi le souci d'avoir une unité de vision et une unité de traitement.
Mais voilà. quel boulot quand même. Et alors justement, ce qui est intéressant quand on étudie les mots comme vous le faites, et la façon dont vous les racontez, parce que c'est un récit, on peut vraiment lire ce dictionnaire comme un roman, c'est d'aller sans cesse à la source et de travailler sur l'étymologie. Oui. C'est ça, au fond, ce travail d'archéologue là que vous décriviez.
Tout à fait, oui. J'insiste, comme un roman, parce que ce n'est pas un roman, je veux dire. C'est un roman, c'est imaginaire.
Là,
c'est quand même observé et à peu près contrôlé par les textes. Et il y a maintenant un instrument de travail que nous n'avions pas au début et dont j'ai largement profité dans cette édition. C'est le premier dictionnaire sur papier en français qui en tient compte, c'est Gallica, qui est le site de la Grande Bibliothèque et qui représente 400 000 textes parcourus en texte intégral, qu'on peut interroger, ce qui permet évidemment des améliorations, non seulement des améliorations sur l'apparition des mots, qu'on peut anticiper un petit peu, et surtout la densité des exemples fait qu'on voit quels sont vraiment les mécanismes par lesquels un mot étranger va devenir un mot français. Je donne l'exemple de palace, par exemple, qui est un mot anglais, qui a été connu en France vers 1850-60 à cause du Crystal Palace à Londres, pour une exposition internationale, et qui devient un mot à la mode et qui entre dans des noms d'hôtels de luxe sur la Côte d'Azur entre 1880 et 1900. Mmh. Et c'est entre 1880 et 1900 que le mot cesse d'être un nom propre avec allusion à l'Angleterre pour devenir tout simplement le synonyme d'hôtel de luxe.
Voilà, et ça c'est des histoires que vous nous racontez et qui sont extraordinaires. Oui. Il faut vraiment, ça c'est une expérience toujours à faire, parce que malheureusement on a tendance maintenant même à chercher les mots dans le dictionnaire sur Internet, mais feuilleter les pages d'un dictionnaire, c'est extraordinaire, parce qu'il suffit de se balader pendant 10 ou 15 minutes pour faire énormément de voyages et, puis et de vagabonder en permanence.
C'est un dictionnaire récit, et puisqu'on s'intéresse ici à la science, je ferai remarquer que, par exemple, le traitement des préfixes scientifiques, comme bio, par exemple, que nous employons tous les jours, ou paléo, rendre hommage aux paléo-anthropologues et autres, ce sont des mots que j'ai traités, non pas par ordre alphabétique comme on le fait d'habitude, mais par ordre chronologique, pour donner une idée de la diffusion du concept et de la manière dont il s'était incarné dans des réalités scientifiques de plus en plus complexes. Et on voit que ça démarre parfois dans l'Antiquité, avec des emprunts directs à des composés grecs et latins, et que la fabrication à l'intérieur du français, c'est surtout l'affaire de la fin du XVIIIe siècle et naturellement du XIXe et XXe siècle, qui produisent alors en quantité invraisemblable.
Ouais. Alors Alain Reyes, ce qui est amusant, c'est que votre voisin de droite, René Cuillerier, lui, il a fait le travail inverse, au fond, c'est d'imaginer le français du 31e siècle. Alors ça, c'est très amusant aussi, hein, ce que vous avez fait.
Bah, on essaye de s'amuser, d'apprendre en s'amusant. Ouais. Mais effectivement, d'ailleurs, c'est vous qui m'avez inspiré ce chapitre-là, puisque c'est une rubrique qui paraît tous les mois dans Sciences et Vie Junior, au départ. Hein, c'est
avec des scies.
Avec des scies. Et je vous ai entendu, justement, parler de l'évolution de la langue depuis l'an 1000. Ouais. Et donc, forcément, la question se posait de savoir, dans 1000 ans, qu'est-ce qu'elle
et comment on va prononcer aussi.
Comment on va prononcer.
Il y a la grammaire du futur et la prononciation du futur.
Oui, non, ça, c'est très hypothétique. C'est juste, c'est aussi un prétexte pour parler des mécanismes de transformation des langues. Les besoins, on les connaît pas. Les besoins qu'il y aura dans l'an 3000, on les connaît pas. Mais la tendance à la flemme articulatoire, ce genre de choses-là, c'est très simple.
Alain, vous qui travaillez beaucoup dans le passé des mots, est-ce que vous amusez à extrapoler, à faire de l'anticipation parfois ou pas?
Oui, mais je le garde pour moi, si vous voulez, parce que...
Ah, mais ce serait amusant. Non, mais c'est très intéressant d'imaginer à quoi pourrait ressembler notre langue.
Oui, mais si on fait une sorte de calcul algébrique en disant, puisque ça s'est passé jusqu'à maintenant, ça va continuer avec les mêmes tendances, on se plante, parce qu'on voit très bien que toutes les anticipations dans l'histoire en matière scientifique sont à la fois justes sur les intentions et fausses sur les réalisations et les matérialisations. Donc voilà, c'est très difficile. Cela dit, il y a des tendances générales. Les mots puissants deviennent faibles. Il y a une atténuation complète. Formidable voulait dire terrifiant il y a seulement 100 ans ou 150 ans et veut dire maintenant magnifique ou épatant. Donc,
René Cuillerier, vous nous direz tout à l'heure comment vous avez imaginé cette langue française du 31e siècle. Alors, les nouveaux mots, Alain Rey, parce qu'évidemment, c'est toujours ce qu'on met en avant quand un nouveau dictionnaire arrive. D'abord, merci d'avoir introduit le gloubi-boulga. Hein, ça m'a fait très plaisir en tant qu'enfant de Casimir.
Il est arrivé,
je ne savais pas que c'était vraiment dans le langage courant maintenant. Ouais. Le gloubi-boulga politique, par exemple.
Oui, c'est passé justement. Ce qui est intéressant pour nous, c'est... Bon, il y aurait eu que Casimir, le mot ne figurerait pas dans le dictionnaire historique. Mais à partir du moment où le mot est repris, vous avez un certain nombre de mots de la télévision qui est repris par les enfants, sont considérés par les adultes comme étant il les transpose d'une manière en général dérisoire. Ouais. Et ça donne des éléments de langage, comme on dit en politique, qui sont utilisés en général pour ridiculiser l'adversaire, ce qui est l'objectif principal du discours politique.
Alors, il y a certains mots qui arrivent et qui sont étonnants. Découvrir que le calendula arrive, par exemple, ou que la drosophile n'était pas mentionnée auparavant.
Oui, alors ça, ce sont...
Le calendula ?
Non, si vous voulez, la drosophile, qui est évidemment, pour tous les biologistes, quelque chose de fondamental.
La mouche star des laboratoires.
C'est la mouche star de la mutation, donc bien sûr. On n'avait pas considéré dans la première édition de ce livre que ça faisait partie du vocabulaire fondamental des Français. Donc, si vous voulez, c'est un jugement de valeur sur les marges du lexique. Et comme il se trouve que le vocabulaire du médecin a une forte tendance à devenir celui du malade, que le vocabulaire du mécanicien a une forte tendance à devenir celui de l'automobiliste en général, j'en ai déduit qu'il fallait inclure ces mots qui sont évidemment depuis longtemps dans le grand et le petit Robert et que je n'avais plus qu'à raconter au lieu de les décrire.
Alors, ce qui est amusant, c'est qu'en lisant justement l'arrivée de nouveaux mots, il y a toute une histoire aussi de la société qui s'écrit.
Hein.
Ça, c'est formidable parce qu'on a une actualité au fond des événements récents. Hein.
Les mots sont une sorte de fenêtre sur la société et sur l'histoire des idées, sur l'histoire politique, etc. Et il est absolument évident qu'on peut avoir un témoignage de cela avec les datations. Quand un mot apparaît, c'est jamais au hasard. C'est toujours à un moment clé, à un moment où il y a un besoin d'expression, où il y a quelque chose qui se déclenche. Les mots du socialisme, par exemple, se sont diffusés ou ont été créés autour de la révolution de 48. C'est très clair. Il y en a très peu en 89, 90, 91, malgré Babeuf et les premiers communistes. Et paradoxalement, les mots du communisme sont antérieurs aux mots du socialisme qui apparaissent au milieu du 19e siècle. Et ça, c'est un peu une leçon pour l'historien général qui devrait toujours faire référence au langage tenu à l'époque par les éléments qu'il décrit.
Alors parmi ces mots qui racontent la société, le burn-out, le buzz, les fémènes, les hipsters, le lange, le lol, le glamour. Alors les fémènes, ça c'est étonnant parce qu'on pense à la femme tout de suite.
Hein. Oui, tout le monde pense à la femme, c'est fait pour ça. Mais en réalité, le mot est un mot de hasard. Il a été créé par des Ukrainiennes qui ne sont pas très au fait de l'étymologie latine des mots français et qui ont trouvé un mot qui se trouve être, par sa sonorité, accordé à tous les mots de la féminité dans nombreuses langues, mais qui en réalité sont apparentés au mot latin qui désigne la cuisse et qui a donné le mot fémur.
Voilà, le fémur, fémène, fémur, exactement.
C'est tout à fait étonnant, mais c'est comme ça.
Le hashtag, Alain Rey.
Ah, le hashtag est très amusant parce que moi j'ai été furieux quand ici même, à France Inter et dans d'autres lieux, on a remplacé le mot dièse que j'aimais bien par hashtag. J'ai trouvé que la ressemblance entre le dièse de la musique et le signe en question était assez grande pour qu'on puisse le désigner ainsi. On a préféré le mot anglais. Alors, tag, évidemment, on était déjà accoutumé au tag à cause des raps, des tags et autres manifestations esthétiques ou prétendues telles de la jeunesse. Mais il y avait ce H bizarre et il se trouve que ce H est bel et bien apparenté au verbe hacher en français. Donc, il y a une espèce de tourbillon linguistique imprévisible et intéressant.
Ça. Avoir la science infuse et mettre la tête au carré, ce que c'est dans ce dictionnaire. Alors, mettre la tête au carré, c'est une expression dont vous ne trouvez aucune trace avant les années 50.
Hein. C'est ça. Et je pense, mais je n'ai pas voulu mettre noir sur blanc des choses qui ne sont que de pures hypothèses sans aucune vérification possible, que c'est un mot qui vient du jargon des dessinateurs industriels ou choses comme ça. Parce que mettre au carré est une expression qui existe pour transformer, si vous voulez, un élément en quelque chose qui va être calculé autrement. C'est un peu le problème du rapport entre le cercle et le carré qui se pose, puisque la tête est plutôt circulaire. Et qu'on ait employé le mot tête est tout à fait normal, puisque c'est le mot courant, le mot chef ayant disparu depuis belle lurette, remplacé par tête, qui au départ est une métaphore disgracieuse, puisque c'est un pot Et c'est exactement la carafe, la cafetière que nous employons en ce jour pour la tête. Donc cette tête mise au carré, ça veut dire mise à mal, et c'est un terme de violence, mais qui a probablement une origine d'argot d'ingénieur. Je le vois comme ça. Ouais. Mais il faudra en avoir la preuve. Et là, peut-être en allant plus loin dans l'investigation des textes qui sont dans Gallica, on pourrait en trouver l'explication. Mmh. Mais c'est pas sûr.
Bon, en tout cas, le voilà dans ce dictionnaire historique de la langue française qui est sorti hier et que vous signez à l'arrêt avec vos collaborateurs. C'est aux éditions Robert, évidemment. On se retrouve dans un instant. On va parler de contagion, de viralité et puis de questions de science avec des si.
Il y a une fille qui penche une robe de tennis blanche. Il y a un sentiment sur un terrain vaguement. Il y a une fille qui penche les deux mains dans les manches. Il y a une ville autour, il y a la fin du jour.
C'est Vincent Delerme, extrait de son nouvel album à l'instant dans notre club des Têtes au Carré. Alison Boiffard, vous êtes commissaire de l'exposition virale du microbe au fou rire. Tout s'attrape, on peut la voir cette expo jusqu'au 27 août au Palais de la Découverte à Paris. Quel est le point commun entre une bactérie, une émotion, une rumeur, l'économie et un bâillement? Il s'agit donc de la contagion.
De la contagion, en effet.
Et vous en explorez tous les contours?
On essaie d'en explorer une bonne partie des contours. On se limite quand même à ce qui touche l'homme, en commençant par tout ce qui est contagion biologique. Donc on rentre dans un tunnel des virus, parce que quand on parle de contagion, la plupart des personnes s'attendent à ce qu'on leur parle de maladie. Alors à la radio d'ailleurs, on parle de contagion, de l'arrivée de l'épidémie de gastro-entérite hein, qui arrive avec de l'avance, on parle de vaccin. Donc forcément, quand on parle de contagion, on s'attend à ce qu'on nous parle de maladie. Donc on commence avec des idées reçues, on entend des gens qui toussent, qui éternuent. Mais après, on ouvre vers vraiment d'autres types de contagions, et des contagions sociales, des contagions émotionnelles, d'où le titre du microbe au fou rire, tout s'attrape.
Ouais, et la contagion, c'est également le titre d'un film.
Ce qu'il nous faut établir, c'est ceci. Pour chaque personne qui tombe malade, combien d'autres personnes risquent-elles de contaminer? Donc, pour la grippe saisonnière, c'est en général environ une. Pour la variole, par contre, c'est plus de trois. Avant qu'on trouve le vaccin, la polio se propageait à un taux qui se situait entre 4 et 6. Bien, on appelle ce nombre le R0. Le R, c'est pour taux de reproduction du virus.
Et dans le cas présent, vous avez une idée du taux?
Sa vitesse de multiplication dépend de tout un ensemble de facteurs. Il y a la période d'incubation, combien de temps on reste contagieux, mais il se peut très bien qu'une personne soit contagieuse sans en avoir le moindre symptôme. Il nous faut savoir ça aussi. Il nous faut aussi connaître la part de population susceptible d'être contaminée.
A priori, ça concerne toute personne ayant des mains, un nez et une bouche.
Quand nous aurons le R0, nous serons en mesure de nous faire une idée de l'étendue de l'épidémie.
Voilà, et on fait des films d'horreur avec la contagion aussi. Hein,
voilà, là, c'est vraiment un film catastrophe, ce qui n'est pas du tout l'exposition. Hein. Quand on la visite, c'est une exposition qui est vraiment beaucoup plus positive, qui n'est pas du tout anxiogène, il y a plein de choses à faire. Alors, on met les mains sur beaucoup de choses. Donc,
même si on passe dans le tunnel des virus.
On s'en sort très bien. Ouais. On rappelle l'importance de se laver les mains, mais après, on redonne un peu ce qu'il faut pour qu'il y ait contagion, à savoir l'agent infectieux, le réseau et le contact approprié. Et ça permet de parler des petits chats qu'on voit sur Internet et des vidéos virales, par exemple.
Alors c'est ça, oui. Parce qu'on parle de contagion et on parle de viralité. Alors là, je me retourne du côté d'Alain Rey, parce que les deux mots veulent dire exactement la même chose ou pas?
Pas du tout. Non. Là, contagion, d'abord, il faudrait distinguer de contamination, qui n'est pas synonyme. Et je ferai remarquer que si la contagion... pour la majorité des gens qui l'entendent, parce que les mots ont un sens précis et en même temps, ils ont des connotations, puisqu'en plus ou moins affectives. Et la contagion, effectivement, connote la maladie. Mais vous remarquerez que la langue a déjà fait un travail de nettoyage, parce que l'adjectif contagieux, lui, est très très courant quand on parle d'un rire contagieux, quand on dit votre optimisme est contagieux, c'est entièrement positif. Donc déjà, le travail c'est est vrai. Fait par l'adjectif. Et ce que vous faites dans votre exposition, c'est de remettre le sémantisme de l'adjectif dans le substantif, ce qui est un cas d'homogénéisation tout à fait respectable.
Voilà. Et vous l'avez fait exprès.
Que je peux saluer.
Et vous l'avez fait exprès, bien sûr.
Vous l'avez sûrement fait exprès.
Alors, la viralité, en tout cas, c'est un phénomène évidemment qu'on voit dans le monde virtuel et qui saisit de plus en plus de choses. Et d'ailleurs, on ne connaît pas tout à fait la façon dont fonctionne la viralité. On aimerait bien le savoir, d'ailleurs, parce que faire le buzz, tiens, voilà un mot qui rentre justement dans le dictionnaire, c'est aussi répandre la poudre de la viralité sur le web.
Voilà, mais ça, pour l'instant, on n'a pas la recette, en effet. Dans l'exposition, on propose un élément qui parle des vidéos virales sur Internet, qui parle des vues YouTube. On propose aux visiteurs de regarder les vidéos et d'essayer d'analyser pourquoi eux auraient envie de partager cette vidéo. Donc on leur donne 5 critères, comme les émotions, la valeur pratique ou le social. Mais c'est pas la recette miracle. C'est-à-dire que si une vidéo touche beaucoup au niveau de l'émotion, elle sera peut-être pas du tout partagée. Alors qu'une vidéo de petit chat qui sursaute c'est à ça. Cause d'un concombre va être extrêmement partagée sans qu'il y ait de raison particulière.
Ça, c'est formidable.
Vous la connaissez tous.
Ah bah oui, il faut voir ça.
Et on évoque aussi, bien sûr, la vidéo virale la plus vue encore maintenant, Gangnam Style, qui a plus de 2 milliards de vues sur Internet. Donc c'est un clip d'un coréen psy. C'est un clip vidéo, voilà. C'est une musique qui marche très très bien. Et la musique, même avec d'autres images, a été extrêmement visionnée. Alors, il y a plein de versions. C'est
mondial.
Ça, un tube mondial.
Absolument.
Et on voit beaucoup.
Alors, la contagion, elle peut être émotionnelle, elle peut être sociale, comme vous le disiez tout à l'heure. Et puis, on va faire un test à l'antenne. On va écouter l'extrait d'un fou rire et on va voir si aussi ça nous met un petit peu du baume au cœur.
Alors, les versions divergent.
Et c'est énorme, on est d'accord.
J'ai plus besoin de le dire maintenant.
Mais non, mais ça fait tellement longtemps, Michel. Vous me tendez la perche, là, quand même.
Ah, ouais, oui. Bien.
Vous continuez.
Ça faisait longtemps. Ouais. Voilà. Les versions divergent, donc. Et c'est marrant, dès que c'est sous la ceinture, ça vous fait rire. Hein
Non, mais reconnaissez quand même, c'est incroyable, cette information.
Ouais.
Voilà, le journal de la santé, par exemple. Et c'est vrai qu'on a le sourire, même si on ne sait pas forcément pourquoi, d'ailleurs, les personnes se marrent.
De les entendre rire, autour de la table,
D'où vient le terme fou rire, d'ailleurs, à l'arrêt, le fou rire. Alors, il n'est pas dans le dictionnaire, là, mais...
Oh si, certainement, à rire, peut-être, je sais pas. Ou à fou, il y a deux possibilités.
Non, mais la
multiplicité des sens de fou, qui est... Vous savez, ça vient du latin follis, qui désigne une sorte de bulle vide. Enfin, c'est un ballon creux, quoi. C'est l'idée de la tête vide qui conduit dans tous les sens. Et c'est pas forcément la démence. Le mot fou va beaucoup plus loin. D'ailleurs, les psychiatres n'en veulent plus, bien entendu. Oui. Ni fou, ni folie. C'est pour de bonnes raisons. Parce que il y a le fou rire, il y a un monde fou, il y a un rire fou, il y a énormément de choses qui sont qualifiées de folles, qui sont simplement extrêmes. C'est un des moyens d'expression de ce qui est extrême pour l'être humain.
Ouais. Voilà. Et puis la contamination des foules, Alison Boiffard, ça aussi vous en parlez, c'est très intéressant. Hein, la façon dont on peut justement, dans un groupe, parfois très, très important, influencer l'autre.
Voilà, là on en parle en mettant le visiteur en position de déclencheur d'un mouvement de foule, ouais. De mouvement de foule positif, hein, encore une fois. On lui demande d'applaudir pour faire applaudir un maximum de personnes, mmh. ou bien de danser pour faire danser un maximum de petits personnages virtuels. Alors ça marche très bien. Ouais. Alors, déjà, ça marche très bien dans l'élément, ouais. mais ça marche très bien dans l'exposition. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'au départ, il y a toujours quelqu'un d'un peu timide qui vient applaudir, qui attend que tout le monde le regarde. Et puis, au bout de 2-3 minutes, alors encore plus quand il y a des plus jeunes, il y a plusieurs personnes qui se regroupent et il y a vraiment beaucoup de personnes qui applaudissent, qui dansent. Et donc, on a vraiment le mouvement de foule dans l'exposition. Donc, on a vraiment cette mise en abîme de la contagion de la foule.
Et c'est donc à voir en ce moment au Palais de la Découverte jusqu'au mois d'août.
Jusqu'au 27 août
donc
prochain.
On a le temps pour aller donc étudier la contamination de plus près.
Voilà.
Merci et on reste ensemble dans un instant. On va parler de ce livre « Et si la Terre était plate ?» Petit souvenir des années 80 avec Buggles à l'instant.
La tête au carré. Le club.
1, 2, 3. Inspiration, petit pas de pause. 1, 2, 3. Expiration. Et on expulse bien tout l'air qu'on a dans les poumons, hein, d'accord? Et si vous voulez augmenter votre vitesse, eh ben vous n'avez qu'à allonger le pas. D'accord, Mathieu?
Avec Mathieu Vidard sur France Inter.
René Cuillerier, et si la Terre était plate, 36 questions de science pas si absurdes que ça, que vous publiez aux éditions Belin. Vous êtes journaliste scientifique, vulgarisateur, physicien de formation, et c'est bien utile quand on voit ce que vous faites comme travail au travers de ces articles. Vous écrivez pour la revue Science et Vie Junior, donc ce livre est inspiré directement de ces écrits. Comment vous viennent les questions que vous développez donc dans vos rubriques sur ce principe « et si »
Alors, il y en a beaucoup qui sont des questions presque évidentes, dont celle qui fait le titre. On a longtemps cru que la Terre était plate, et donc c'est assez légitime de se poser la question « Bon, mais qu'est-ce qui se passerait vraiment si elle était plate ?» D'ailleurs, on s'aperçoit à cette occasion-là que la seule raison pour laquelle on a longtemps cru qu'elle était plate, c'est précisément parce qu'elle est ronde. Mm-hmm. Et puis, il y a toutes sortes de de sources, y compris des copains qui me lancent des défis et des lecteurs parfois. Enfin,
ouais. Est-ce que la science peut répondre à tout aujourd'hui, vraiment, ou pas?
Bien sûr que non. Je pense que la science peut pas répondre à
tout.
En
tout cas, elle peut se poser toutes les questions.
Elle peut se poser toutes les questions. Elle a jamais fini de trouver des réponses. Et ça, c'est le travail des chercheurs. Mais ce qui est intéressant dans l'exercice, c'est qu'on finit quand même, quelle que soit l'absurdité de la question, on finit quand même par apprendre quelque chose.
C'est ça.
Simplement, en appliquant la méthode scientifique.
C'est ça, exactement.
Premier surpris, c'est moi d'ailleurs.
Ouais. Parce que forcément, ça fait ressurgir des questions intéressantes.
On est obligé d'abord de... Il y a une espèce d'enquête à chaque fois. Une enquête un peu virtuelle, mais une enquête. Et donc de soulever plein d'aspects des sciences, aussi bien, ça peut être de l'histoire, de la biologie, beaucoup de physique, il y a beaucoup de physique. Mais on observe ces lois de la nature, on va dire, pour aller vite, sous un angle complètement différent. Et des fois, on les comprend mieux.
Ouais. Alors décidément, j'ai beaucoup de chance parce que Anna Rey m'a fait plaisir avec le Gloubi Boulga de Casimir et vous faites très plaisir avec Goldorak. Hein.
Ouais. c'est la même génération.
C'est ça exactement. Et si on construisait Goldorak, donc là, il y a des vraies questions de physique pure qui se posent imaginer quel serait ce robot géant au fond.
Voilà, oui, là c'est beaucoup de science des matériaux, de comportement des matériaux. On s'aperçoit que c'est. Alors, ce qui m'a surpris en fait en le faisant, c'est que finalement, c'est pas complètement absurde, c'est pas complètement impossible. On pourrait probablement construire un Goldorak, mais il servirait probablement à rien. Ouais.
Mais il y a vraiment des schémas. Hein. Vous proposez des dessins avec des équations, des chiffres très particuliers pour imaginer justement la physique du super-héros. Alors, si la Terre était plate, ça ressemblerait à quoi alors finalement? Qu'est-ce qui se passerait sur notre Terre? Est-ce que ça modifierait la météo? Qu'est-ce qu'on verrait avec nos yeux? Comment on pourrait se déplacer?
Alors, la première chose, effectivement, ce qui change quand si la Terre est plate, c'est qu'il n'y a pas d'horizon. En tout cas, il est très loin. Les bords de la Terre sont pas cachés puisque la lumière n'a pas besoin de tourner. Enfin, ce qu'on voit pas derrière l'horizon, c'est parce que la lumière devrait tourner pour qu'on le voit. Là, on voit directement. Donc, il faut imaginer un horizon qui est des milliers de fois plus loin. Donc, on a un paysage qui est très très vaste. Et l'autre chose qui change et qui change vraiment tout, c'est le fait que sur Terre, la gravité, la pesanteur pointe vers le centre de la Terre. Donc, elle est toujours perpendiculaire au sol sur une planète ronde, sur une planète qui est plate. Au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'aplomb du centre, la verticale est de plus en plus penchée. Donc on a l'impression de gravir une pente quand on s'éloigne, par exemple, du centre du truc plat sur lequel on marche. Et donc, du point de vue de la gravité, c'est quelque chose qui se comporte comme une cuvette. Et notamment, l'eau et l'air auraient tendance à se rassembler sous la forme d'une bulle au milieu.
Ouais. Et notre perception donc est complètement différente du coup sur une Terre plate.
Exactement. Hein. Ouais. Quand on s'éloigne du centre, par exemple, en l'occurrence, on imagine une Terre cubique, donc qui est plate sur chacune de ses faces. Si on s'éloigne, au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre de la face, on a l'impression de gravir une montagne.
Ouais. Et pour aller dans l'espace, c'est très pratique.
Hein. Ah bah oui, puisqu'une fois qu'on est sorti de la bulle d'air, on est dans l'espace, on peut y aller à pied.
On y est déjà.
Il suffit de tourner le dos à la plage et on marche une centaine de kilomètres, on est dans l'espace.
Ouais. Alain Rey.
Oui, ce qui est passionnant, c'est que là, c'est la projection des connaissances actuelles sur des usages du langage qui, eux, sont anciens. Parce que si la Terre était plate, c'est vu d'une manière contemporaine, avec les connaissances contemporaines. Alors que moi, quand j'entends, en tant que historien de la langue, quand j'entends si la Terre était plate, j'ai tendance à dire, mais pour la plupart des gens, elle est toujours plate.
Ouais.
Parce que
c'est le plancher des vaches.
Elle est vécue comme ça. Et tous les mots de la science ont une double épaisseur. D'une part, une espèce de conscience des choses très archaïques et qui est continuée jusqu'à maintenant, et d'autre part des connaissances qui se sont accumulées et qui ont changé complètement la manière de voir. Un mot comme couleur, par exemple, n'est pas du tout ressenti de la même façon avant qu'on sache par l'optique et par la spectroscopie que c'est une onde, et que c'est une onde qui subdivise la lumière solaire, et que grâce à elle, on va pouvoir avoir une astronomie qui observe les corps chimiques dans des étoiles inaccessibles. Donc, et lorsque vous dites, lorsque vous voyez un dromadaire, vous direz spontanément, j'ai vu un chameau, et une baleine, un cachalot, une baleine, et ainsi de suite. Tous les mots ont une double épaisseur, et nous continuons à dire des étoiles filantes, alors que nous savons très bien que ce ne sont pas des étoiles. Et tout ceci, ça crée une espèce d'univers fictif qui est le passé. Et là, c'est l'univers futur qui est projeté sur la réalité actuelle.
Dont la langue du 31e siècle, la langue française. française, par exemple. Comment vous l'avez imaginé, René Cuyallier, dans ce livre?
Je prétends pas avoir fait une prédiction exacte, évidemment. Et Alain avait tout à fait raison de préciser ça. Mais c'est un peu l'occasion de montrer, de faire toucher du doigt le fait qu'effectivement les langues évoluent. Pour la plupart d'entre nous, l'expérience qu'on a du français, ce sont des règles, c'est aussi une conservation de la langue. En tout cas, la façon dont c'est enseigné, c'est l'idée qu'il faut conserver la langue telle qu'elle est là.
La faute d'aujourd'hui est la règle de demain.
Exact. Ben, c'est exactement ça.
Mais c'est sûr. Ouais.
L'idée, c'est de faire sentir comment, en fait, la faute d'hier est devenue la règle d'aujourd'hui, et donc du coup, de projeter et d'imaginer, de façon hypothétique.
Est-ce que le français va devenir de plus en plus simpliste?
Ah, ça, c'est pas possible. Alors ça, c'est un autre aspect, effectivement, que j'ai appris en enquêtant sur
ça. Ça me rassure.
En enquêtant sur ces choses-là. Non, c'est que forcément, quand une langue se simplifie à un bout, elle est obligée de se compliquer de l'autre pour pouvoir continuer à être le véhicule de la pensée des gens.
C'est ça. Certaines fautes d'aujourd'hui sont les ancêtres des mots de demain. Ouais, hein. Ça fait partie de ce que vous nous racontez. Rencontrer l'âme sœur, ça aussi, c'est une théorie de l'amour.
Il y a une
équation de l'amour, c'est ça?
Oui. Enfin, il y a une équation de l'amour.
En fait, c'est la formule de l'amour.
Moins X.
La chance de trouver l'âme sœur.
Voilà, les pourcentages de chances de trouver l'âme sœur.
Ah ben c'est pas très joyeux. Hein.
Non, c'est une théorie absolument sinistre et qui est présentée comme extrêmement romantique, mais en fait qui a des conséquences logiques très sinistres.
Ce sont les affinités électives.
Si on considère qu'en moyenne les gens essayent, si on essaye 12 personnes dans notre vie, hein, c'est un chiffre qui ressort, c'est une moyenne à peu près, et si on tient compte du nombre de gens qu'il y a dans chaque tranche d'âge dans le monde, on aboutit à la conclusion qu'il n'y a probablement que quelques centaines de couples vivant actuellement le grand amour à travers toute la planète, et de bonnes chances qu'on n'en trouve aucun en France.
Oui,
c'est donc épouvantable.
Donc, effectivement, il vaut mieux ne pas croire à la théorie de l'âme sœur.
Ouais.
Et en fait, c'est le résultat. En fait, c'est assez rigolo parce que c'est un problème de proba, la façon dont j'ai posé le truc. C'est un problème de proba qui s'appelle le problème de la secrétaire, qui a été développé dans les années 50 et qui décrit le dilemme d'un patron qui passe des entretiens d'embauche et qui essaie de choisir la personne la plus compétente. Et en fait, la façon dont les mathématiciens posaient le problème correspond exactement à cette théorie de l'âme sœur. Et donc j'ai utilisé les résultats de ce problème-là
pour faire cet article. Ouais. Et si on imaginait un T-Rex dans la nature, alors un dinosaure aujourd'hui, qu'est-ce que ça donnerait? Il serait très malheureux. Faudrait le mettre en Normandie, je crois. C'est ça.
Parce que, oui, effectivement, le T-Rex est un grand prédateur dont on pense de plus en plus que les paléontologues disent que c'est un prédateur extrêmement efficace, mais efficace et très bien adapté à son milieu. Et de nos jours, par exemple, si on l'imagine dans la savane africaine, il aura le double problème que les animaux sont beaucoup plus rapides qu'à son époque et qu'ils sont 4 fois moins nombreux. Il y a 4 fois moins de viande sur pattes dans la savane africaine aujourd'hui qu'il y en avait dans les forêts, dans les savanes du Crétacé.
D'où l'idée de le mettre au milieu des vaches normandes.
Et ouais, parce que là, il y a plein de viande sur pattes qui court pas vite, beaucoup moins vite que lui.
Oui, c'est vrai.
Et le bocage lui offre la possibilité de se planquer. Ah oui, un autre problème qu'il a, le T-Rex, c'est qu'il tourne pas bien. Il lui faut 2 secondes pour prendre un virage, ça c'est lié à sa forme très allongée avec sa longue queue. Donc au milieu des gazelles, c'est foutu. Mais s'il peut se planquer et charger depuis une haie du bocage, ça marchera très très bien.
Voilà, c'est toutes ces questions que vous posez. Et vous êtes même payé pour faire ça, pour Sciences et Vie Junior. Ouais. Ça, c'est incroyable.
Je suis payé pour mes loisirs, en fait.
René Cuyallier, et si la Terre était plate, c'est extrêmement drôle. 36 questions de science, pas si absurde que ça. Si le Père Noël existait, si le sexe n'existait pas, vous vous posez vraiment des questions existentielles. Et il faut lire cet ouvrage qui vient de paraître chez Belin. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci Alain Rey, merci pour votre venue. Et puis Alison Boiffard, donc on court également au Palais de la Découverte, voir l'exposition sur la viralité jusqu'au 27 août prochain.